partenariat officiel entre RCJ et Cannes Israël en français. RCJ, média du FSJU, et Cannes en français, la radio publique israélienne, partagent leurs programmes. Pour être encore plus près de l'actu en France et en Israël et en France, restez branchés. Téléchargez l'application mobile gratuite de RCJ pour écouter Cannes Israël en français, avec le concours du FSJU France-Israël.
Et ce soir, comme chaque semaine, nous retrouvons Yaël Ifra pour la revue de presse économique hebdomadaire. Bonsoir Yaël.
Bonsoir Emmanuel.
Alors, ce soir, Yael, il y a beaucoup de sujets que nous souhaitons aborder. On va commencer par toutes ces manifestations qui ont lieu quasiment tous les jours dans le pays, des manifestations contre la corruption, des manifestations pour le soutien des indépendants, en tout cas dans tout ce qui concerne la crise économique et la corruption. On a le sentiment qu'il y a un mouvement social qui est en train de se mettre en place. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une révolution sociale comme la révolution des tentes, par exemple?
Justement, c'est très, on n'est pas du tout sûr. J'ai lu cette semaine dans Le Marqueur un article vraiment passionnant de Samy Peretz, qui est donc le commentateur économique senior du Marqueur, qui a réalisé une série documentaire économique qui passe en ce moment sur Cannes, donc sur votre réseau, on va dire, que je recommande vivement à tous les Hébraïsans. Il s'est intéressé dans une des émissions aux différents mouvements sociaux qui ont pu avoir lieu en Israël au cours des années. Et effectivement, si on regarde les circonstances d'aujourd'hui, et imaginons si on était en France, par exemple, on se dirait que tout est mûr pour que les gens descendent par millions dans les rues. Il y a quand même 900 000 chômeurs. On voit des données extrêmement inquiétantes sur le fait que très peu de gens sont retournés au travail, des dizaines de milliers d'entreprises qui ont fermé, des gens qui disent dans les rues qu'ils n'ont pas de quoi manger. Le gouvernement, pendant ce temps-là, le gouvernement le plus élargi, on va dire ça, le plus obèse de toute l'histoire du pays, et les ennuis juridiques du Premier ministre qui s'occupe avant tout de ses propres avantages fiscaux, on peut dire que si on était dans un autre pays, ça ferait déjà très longtemps que cette dynamite aurait pris feu. Or, en Israël, qu'est-ce qu'on voit? On voit finalement des manifestations à travers le pays, comme vous l'avez dit, mais toujours le même problème de différents groupes. Mmh. En Israël, en fait, c'est toujours atomisé. D'abord pour des raisons de politique identitaire, puisque les gens s'identifient politiquement au groupe auquel ils appartiennent, donc ils ont difficulté à faire masse, à faire corps, et puis ensuite parce que les sujets sont éparpillés, chacun manifeste pour sa chapelle, et on voit ici effectivement le reflet du problème de ce qu'on appelle les interessentim en Israël, du fait que le pays est constitué de groupes d'intérêts, chacun manifeste pour lui, et les gens ont énormément de mal à surmonter cela et à arriver à une revendication commune.
C'est bizarre parce que on pourrait au contraire se dire que si tous ces groupes se rejoignaient pour une grande manifestation massive, les gens du tourisme, les indépendants, les gens contre la corruption, etc., ça serait peut-être plus flagrant et plus impactant que des petites manifestations assez éparses à gauche et à droite, non ? Même pour le public.
Certainement. Ah oui, absolument. Vous avez tout à fait raison, Emmanuel. Mais encore faudrait-il que les gens en aient envie. Et le problème, c'est qu'ici, l'horizon des Israéliens et des citoyens du pays est borné par leurs propres revendications et par leurs propres corporations. Et surtout, je crois qu'on peut dire que de façon assez systématique, les gouvernements des dernières années ont entretenu le ressentiment, la haine, les rancunes, les divergences, et que les Israéliens ont énormément de mal à dépasser. Et donc, ce qu'explique Samy Peretz, alors, il nous explique comment s'est passé le mouvement de 2011. Il faut se souvenir qu'en 2011, il nous rappelle qu'il n'y avait pas particulièrement de crise économique, que le chômage n'était pas élevé et qu'il n'y a pas eu un événement explosif, mais qu'il y a eu en fait à bas bruit une décennie continue d'augmentation du coût de la vie, d'augmentation des prix du logement évidemment, et puis toutes les affaires des tycoons, de tous ces énormes hommes d'affaires qui étaient en fait des bulles, chacun est une espèce de bulle spéculative complètement enflée, qui se sont goinfrés sur le dos des banques en empruntant de l'argent avec des effets de pyramide, pendant que les citoyens, les simples citoyens voyaient leur pouvoir d'achat s'effriter, et que finalement ça a été une espèce d'écart, de grand grand écart que tout d'un coup, les gens ont aperçu entre leur niveau de vie, leurs difficultés au quotidien, leur vie dans la société israélienne et un establishment complètement déconnecté. Donc à l'époque, c'était un establishment qui était des affaires. Mmh. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut dire, ça c'est pas Sami Peres qui le dit, mais c'est mon idée, c'est qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le monde politique est totalement déconnecté de la société, mais à un niveau qui est difficile à décrire. Et pour le coup, je me permets d'en parler parce que je travaille à la Knesset, je peux vous dire que le niveau d'intérêt des hommes politiques, si bien intentionnés qu'ils soient pour les problèmes du quotidien des Israéliens, est vraiment particulièrement bas et que la déconnexion est réelle. Ils vivent dans un monde à côté, à côté. Et même s'ils affirment être sociaux, même s'ils disent avoir ces préoccupations-là, je pense qu'eux, ils sont très très loin de ce que vivent les citoyens au quotidien. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose que nous raconte Sami Peretz, c'est que ce qui marche en Israël, quand on veut un mouvement social, il faut être très 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 agressif. Il ne faut pas du tout aller poliment avec son petit drapeau manifester en disant « je ne suis pas content ». Il faut de la violence, il faut des explosions. Et donc, c'est d'ailleurs ce que font, vous l'avez remarqué, les militants, en particulier ceux en ce moment du spectacle, par exemple, ou les drapeaux noirs. Donc, on se jette par terre, on s'attaque à la police, on essaye d'avoir un maximum de médias. Et ce sont les médias qui vont faire l'événement. Troisièmement, il nous rappelle deux autres mouvements sociaux qui ont eu lieu en Israël, un dans les années 50, qui a été lié à l'affaire des réparations de l'Allemagne. Donc il explique qu'en fait, se sont créées des classes de citoyens en Israël en fonction du niveau de réparation qu'on avait reçu de l'Allemagne. Vous savez qu'il y avait une opposition très très forte du gouvernement israélien à recevoir ces réparations, qui ne voulait pas un sou de l'Allemagne, et puis la situation économique du pays ne l'a tout simplement pas permis, le pays était en trop mauvais état, et donc les Allemands commençaient à déverser des millions, et donc il y a eu toute la différence entre ceux qui venaient d'Europe de l'Ouest, qui avaient été dans les camps de concentration allemands, qui ont reçu des très grosses réparations, le deuxième cercle qui venait d'Union soviétique, qui n'avait pas droit aux mêmes réparations, qui ne recevait que les réparations de l'État d'Israël, et qui donc étaient moins, entre guillemets, gâtés. Et puis les immigrants d'Afrique du Nord qu'on avait collés dans des mahabarot et dans des villes de développement et qui eux évidemment n'avaient rien reçu du tout. Et donc en fait c'est cette comparaison que les gens se faisaient les uns avec les autres qui a créé des mouvements de mécontentement social extrêmement forts qui a mené à la révolte, à des émeutes qui ont eu lieu dans le quartier de Wadi Salab à Haïfa, qui ont été des émeutes extrêmement violentes. Le quartier a quasiment été détruit par la police parce que tout simplement les citoyens se rendaient compte que certains avançaient et que d'autres restaient derrière, qu'ils étaient moins bien lotis. C'est toujours des problèmes entre des couches de population qui ont réussi à obtenir des choses et d'autres moins. Donc je vais m'arrêter là, mais je vous conseille de regarder l'émission donc c'est une série de 5 émissions. Donc il y en a une qui est consacrée à cette histoire des mouvements sociaux, mais il y en a d'autres, une sur les tycoons, une autre sur le plan de redressement, et vraiment c'est passionnant.
Sur Cannes, Radesré donc.
Oui, et très rapidement la conclusion de Sami Peretz, il explique qu'en fait Netanyahou, le premier ministre Netanyahou, a développé une très très grande capacité à gérer le mécontentement de façon un peu ponctuelle comme ça. Il explique que Netanyahou est très très fort pour obtenir ce qu'il veut, et ensuite il fait ce qu'on appelle de la réparation de dommages, et il donne pour exemple l'histoire, vous vous souvenez, de Orna Peretz, qui a eu lieu il y a un an à peu près, une habitante de Kiryat Shmona qui avait interpellé Netanyahou pendant une politique pour se plaindre de l'absence de coupe à trolim, enfin en tout cas de ce qu'on appelle une sorte de salle d'urgence qu'on met dans les petites villes en attendant l'hôpital, et où il lui a carrément dit devant tout le monde « tu nous ennuies, tu n'intéresses personne ». Et ça a fait un tel scandale qu'ensuite, il a dû rattraper, il l'a rencontré, et avec son charme personnel, il a rattrapé le coup, et finalement, elle ne lui en a plus voulu, et il fait ça à chaque fois, c'est toujours la même chose. Et comme nous dit Sami Peretz, il conclut son article en disant, eh bien, on ne sait pas s'il y aura un mouvement social ou pas, mais en tout cas, tout dépendra de la capacité de Benjamin Netanyahou à neutraliser le mécontentement, à rencontrer de façon individuelle les différents foyers possibles, et à empêcher, en fait, le corps social, entre guillemets, de prendre sous forme de mouvement global.
Alors, justement, contenter le peuple. On va parler maintenant de salaires. Les salaires très sympathiques du secteur public et l'annonce de cuts, de coupes très importantes.
Oui, alors ça a été un télescopage qui n'était pas prévu, ou peut-être que oui, j'en sais rien. Mais en fait, tous les ans, le préposé au salaire du ministère des Finances, donc qui est chargé, puisque vous savez, comme on en a discuté, de négocier les salaires avec les différentes classes de travailleurs publics et de fonctionnaires. On a dit qu'en Israël, on le sait, donc ce n'est donc pas l'État qui fixe les salaires des fonctionnaires. Donc, Kobi Barnatan, tous les ans, il publie un rapport très, très détaillé sur les niveaux de salaire des différents travailleurs, des différents employés qui travaillent pour l'État sous plein de formes différentes, puisqu'il y a à la fois les fonctionnaires des ministères, les employés des sociétés publiques, les employés des collectivités locales, les employés de ce qu'on appelle les Taagidim. Vous travaillez dans un Taagid,
Tout à fait.
Emmanuel, donc c'est en fait une grande entreprise publique, on va dire ça, mais ça peut être aussi une grande entreprise, c'est pas très bien défini. Et donc il en ressort que, pour dire ça de façon assez rapide, même si on va s'attarder sur deux, trois catégories, le salaire moyen de ces personnes, par exemple qui travaillent dans les sociétés gouvernementales, est plus élevé de 133% que le salaire moyen du marché. Voilà. Par exemple, on peut dire aussi que le salaire moyen dans le public, c'est 16 200 shekels par mois, alors que c'est 10 000 et quelques shekels sur le marché israélien. Donc, on voit qu'on est très, très au-dessus. Les sociétés gouvernementales qui sont des monopoles, comme par exemple la Hevrat Hachshmal, la société d'électricité, alors eux, ils battent tous les records, puisque
Record.
le salaire moyen, c'est 39 000 shekels par mois là-bas. Il nous fait également remarquer, Kobi Barnatan, de façon très intéressante, que dans tout le secteur public, il y a des très très grosses différences de salaire entre les hommes et les femmes. Les femmes sont beaucoup moins bien payées que les hommes.
Oui,
Il y a
ça on le
plus
sait.
la société est monopolistique, plus les écarts de salaire sont forts et plus les hommes y sont représentés, évidemment. C'est assez intéressant, hein. C'est-à-dire que,
Bien
par
sûr.
exemple, dans les sociétés gouvernementales qui sont monopolistiques, il y a 76% d'hommes, vous voyez? Et il n'y a que 24% de femmes. Donc on voit que ça représente exactement sans faire de la psychologie, de la sociologie de bazar, les structures de domination qu'on voit un peu partout dans le monde, c'est-à-dire des hommes gradés, âgés, qui tiennent les rênes de ces grosses sociétés, et en dessous une classe de femmes qui sont moins rétribuées, qui n'arrivent pas à accéder aux postes de direction. Alors ça, c'est une première chose. On peut dire, par exemple, on peut parler pour les monopoles des salariés du port d'Ashdod. Et en plus, avec les accords kibboutziques, les accords collectifs que la Histadrout signe, ce sont les salariés qui sont mieux payés que la direction. Donc, par exemple, vous voyez, donc ça, c'est les plus gros salaires du port d'Ashdod, c'est 80 000 shekels par mois, quasiment. Le plus gros salaire de la direction, c'est 60 000. Donc, tout ça, vous voyez que ce sont des résultats de rapports de force. Quand des salariés d'un secteur public monopolistique négocient avec l'État et qui vous disent qu'ils vont fermer le port, bah, évidemment, tout de suite, les salaires s'en ressentent et ils augmentent en conséquence. La même
D'accord.
chose pour les aéroports, hein. Donc, on connaît. C'est exactement la même chose. Cela étant, Kobi Barnatan s'attarde particulièrement sur les médecins. Alors là, cette année va s'ouvrir de nouveau la négociation sur les nouveaux accords collectifs sur le salaire des médecins. Et là, je crois que le ministère des Finances a décidé, comme on dit en hébreu, de mettre des gros freins. Je pense que les médecins sont déterminés à obtenir encore des fortes augmentations et le ministère des Finances est particulièrement déterminé à ne pas les leur donner. Et c'est pourquoi, je pense, ce rapport s'attarde aussi fort sur le système de santé.
Alors,
En
quand on
fait,
parle des médecins, c'est médecins hospitaliers, médecins de Coupa Trolim aussi?
ben justement, ce qui nous explique, c'est que la plupart des médecins cumulent
C'est ça,
plusieurs postes.
plusieurs postes dans plusieurs
Oui,
coupotes
voilà,
et à
exactement.
l'hôpital aussi.
Alors voilà, donc ce qui nous dit, c'est qu'en fait, le salaire moyen des salariés de la santé n'est pas si élevé, il n'est que, entre guillemets, de 24 000 shekels par mois. Mais dedans, bien entendu, il y a les infirmières, il y a les secrétaires des Coupa Trolim, d'accord, il y a toutes sortes de salariés, donc c'est une moyenne. Le salaire moyen d'un médecin dans le système de santé publique, c'est 41 000 shekels par mois, et le salaire moyen d'une infirmière, 20 000. Voilà, je sais que je vais pas me faire des amis à chaque fois que j'écris
41 000
sur
shekels
ce
pour un
sujet.
médecin spécialiste ou pour un médecin
Non, 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 pour un médecin de base, hein. Non, non, les
un
médecins
médecin de
spécialistes, on va en
famille.
parler après. Voilà,
D'accord.
exactement. Je ne me fais pas d'amis, je reçois toujours systématiquement, comme avec les profs, des tas de personnes qui m'envoient des messages pour me dire que c'est pas vrai, qu'ils gagnent très peu d'argent. Bon, donc voilà, je les invite à montrer leur fiche de paye et toutes leurs fiches de paye avec tous les éléments. Donc, par exemple, eh bien, Kobi Barnatan a donné quelques exemples de médecins. Il donne l'exemple d'un médecin spécialiste qui dirige un service dans un centre de santé gouvernemental, quel qu'il soit, dans un hôpital. En plus, il a le droit d'être également employé dans le Taagid des hôpitaux, c'est-à-dire dans le service privé, par exemple, de Hadassah, ou d'un autre hôpital. Et puis, il peut également être employé dans une Coopétrolim et travailler en plus dans le privé. Et donc, il calcule que ce médecin gagne déjà 41 000 shekels à la base, plus encore 47 000 shekels dans le cadre de la Coopétrolim. Par-dessus ça, il va encore gagner à l'hôpital. Enfin bon, il nous annonce des salaires assez fantastiques. Et il faut comprendre pourquoi tout ça, Emmanuel. Eh bien, parce que les accords collectifs des médecins prévoient que dans les hôpitaux, on ne travaille que de 7h30 à 15h. Et c'est comme ça. Voilà. C'est pour ça, comme vous le savez, qu'il y a des files d'attente phénoménales pour les examens
Pour les
dans les
examens.
hôpitaux. Ben oui, parce que quand on a un appareil et qu'il fonctionne que 5 heures par jour, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué, parce que bon, 7h30 à 15h, on a bien compris que dedans, il y a les pauses qu'il faut ouvrir, etc. Donc l'après-midi, ces appareils-là fonctionnent en privé. Et ce sont les patients, enfin les assurés qui vont payer des assurances privées pour pouvoir accéder à ces services qui ont été financés par le contribuable et qui sont exploités par les médecins et par tout le système hospitalier en fait pour gagner plus d'argent. On a un système qui est extrêmement inégalitaire et comme j'explique à chaque fois, tout ce discours misérabiliste sur le système de santé israélien qui n'a pas les moyens, il faut dire les choses comme elles sont. Les médecins israéliens confisquent une très grosse partie du budget de la santé en Israël, sont trop payés pour la plupart. Je suis désolée si
Bon,
ça va pas plaire.
effectivement,
Voilà.
vous n'allez pas vous faire
Non,
d'amis ce soir, Yael.
je vais pas me faire des amis, mais si vous voulez, Kobi Barnatan nous dit que dans un médecin senior en Israël, on avait déjà parlé de ce chiffre, je l'avais déjà donné, c'est déjà écrit, il gagne 790 000 shekels par an. C'est plus qu'un patron de la high-tech. Alors bon, moi je veux bien, il travaille beaucoup, et à chaque fois on me dit qu'il a fait beaucoup d'études. En France aussi, on fait beaucoup d'études, et on ne gagne pas ces sommes-là du tout.
Dans les
Et
hôpitaux, en tout cas.
c'est surtout que si le système était riche, moi je n'aurais aucun problème, mais tant mieux que tout le monde gagne très bien sa vie. Mais moi ce que je vois, c'est que ça se ressent sur la qualité des soins, ça se ressent sur les infrastructures, ça se ressent sur la qualité des opérations, ça
Et
se ressent
surtout
sur les files d'attente.
sur les files d'attente et
Mais
la
oui,
durée des
mais bien
d'attente pour les
sûr.
consultations. Yael,
Absolument.
il va pas nous rester beaucoup de temps. On a encore un
Non.
sujet qu'on voudrait aborder ensemble. C'est notre nouveau ministre du logement qui est passé donc de la santé au logement. Il s'agit de Monsieur Litzman qui cette fois va rebattre les cartes de la politique du logement. De quoi
Eh bien
s'agit-il
oui,
exactement?
de façon assez étonnante. Alors,
En
Jacob
quelques minutes,
Litzman,
Yael, hein,
donc,
parce qu'on n'a plus beaucoup de
oui, très
temps.
vite, il est arrivé au ministère du Logement après avoir été quand même évincé du ministère de la Santé, avec des instructions très claires du Hadmor de Gour, qui est donc le rabbin qui dirige la communauté des Hassidim de Gour, qui lui a demandé de s'occuper de la détresse de logement des Haredim, qui est absolument épouvantable en Israël. Il n'y a pas assez de logements, ils ne sont pas construits comme il faut. Et donc, on sait que le Hadmor de Gour désigne pour les Hassidim des localités dans lesquelles ils doivent aller habiter. C'est comme ça. Entre autres, par exemple, Arad. Et donc, Yaakov Litzman s'est attelé à la tâche et a construit un plan qui va profiter à tout le monde, donc c'est plutôt très très bien, avec un accent très fort sur les villes de la périphérie. Donc, on va arrêter le programme Mechir Lemishtaken de Moshe Kahlon est complètement oublié. Il y aura tout un système de mise sur le marché des terrains de l'État, parce que vous savez qu'en
Bah oui.
Israël, les promoteurs achètent les terrains à l'État et les développent, avec un système de catégories. Plus ça sera bien situé et cher, et ben plus il faudra payer, ce qui est tout à fait normal. Les excédents de ressources de l'État seront attribués afin de subventionner pour les jeunes ménages, Haredim ou autres, qui veulent s'installer dans la périphérie, des réductions sur un appartement jusqu'à 200 000 shekels. De nombreux appartements seront mis sur le marché à un prix inférieur à 1 million de shekels. Et il se profile effectivement, d'après ce qu'on voit, une politique de logement qui, enfin, va développer les zones de la périphérie, permettre aux jeunes couples d'acheter des appartements à un prix normal. Et effectivement, le
Ben
problème
c'est pas
de
trop tôt,
Mechir
hein, j'ai envie de vous
Lemishtaken,
dire. Hein.
voilà, Mechir Lemishtaken était vraiment dirigé de façon explicite vers les classes moyennes. Et là, Litzman, eh bien, son public est le public le plus pauvre d'Israël. Et grâce à cela, je veux le dire, grâce à cela, ça paraît un peu cynique, mais il va développer une politique de logement qui peut-être, enfin, va développer des zones qui ne l'étaient pas et permettre d'acheter des logements à des prix abordables.
En
Donc, pour
espérant
l'instant, c'est très prometteur.
que cela profite à tous.
Exactement, en espérant que cela profite à tous.
Yael Ifra, merci beaucoup pour cette revue de presse passionnante. On vous souhaite Shabbat Shalom. On vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt.
Shabbat shalom. Merci
Au
Emmanuel. Au
revoir.
revoir.
Vous venez d'écouter une émission de Can Israël dans le cadre du partenariat entre la radio Can Israël, la radio publique d'État israélienne et RCJ. Vous pouvez réécouter cette émission en téléchargeant notre application mobile.